Quand une personne fait teshuva, en général, elle peut avoir tendance à renier en quelque sorte son passé, à ne voir en son passé que des choses qui sont négatives. Or, la vision du rabbi, c'est que précisément, chaque juif, lorsqu'il fait teshuva, bien que ce soit un combat qu'il doit mener tous les jours, la teshuva, c'est vraiment quelque chose, c'est un retour vers Dieu, teshuv, et le fait de revenir vers Dieu. Et on dit même que le rabbi dit que le Mashiach lui-même, il fera faire teshuvah au tzadikim. Donc la teshuvah, avec le regard du rabbi, c'est avoir un regard positif sur notre passé, employer les forces qu'on a déjà employées dans le passé, et les transformer, les faire basculer du côté de la Kiddusha. Mais il ne s'agit pas du tout de contredire notre passé, de le renier, et de n'y voir qu'une chose négative. Au contraire, c'est par le passé qu'on parvient même à se rendre compte que toutes ces erreurs qu'on a pu commettre, elles nous amènent à comprendre et à avoir une conscience de ce que c'est le bien véritable. Alors ce Shabbat de la Parasha Mishpatim, dans le Dvar al-Machout, le Rabbi, il nous dit que à cette époque-là, Erev Shabbat, donc Yom Shishi, c'était le 26 comme cette année, Yom Shishi, donc, se sont réunis des dirigeants importants des États différents dans le monde pour prendre des décisions pour désarmer et consacrer moins de budget pour les armes et tout ce qui concerne la guerre en général. Donc, le rabbi va s'attarder sur l'endroit où cette réunion a eu lieu, c'est-à-dire à l'ONU, donc à New York, et le temps. Donc, c'était le temps, le moment, c'était Erev Shabbat. Erev Shabbat, donc la veille du Shabbat, Mishpatim, c'est une allusion à la veille de la Géoula, puisque la Géoula, c'est vraiment un Shabbat qui est éternel. Donc à la veille de ce Shabbat, à la veille de la Géoula, on voit que les Goïm, les peuples du monde, ils vont prendre des décisions qui s'accordent en réalité avec les temps du Mashiach, puisque le désarmement, le fait de transformer des armes en socs de charrue, en outils qui vont être employés pour des choses qui sont humaines et des choses qui sont pour le bien de l'homme, on voit que c'est la transformation de l'obscurité en lumière. Et donc, en ce sens-là, on doit voir, on doit comprendre que notre mission de faire une demeure pour l'essence divine dans ce monde, elle concerne aussi les peuples du monde. Ils participent aussi à cette évolution, à ce progrès, à cette démarche de transformer l'obscurité en lumière. Les Mishpatim, ça représente les mitzvot que l'on doit accomplir, évidemment pour faire de ce monde une demeure pour Dieu, mais ça concerne les mitzvot qu'on peut appréhender au moyen de l'intellect. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont compréhensibles à notre intellect. Mais le point qui est souligné ici par le rabbi, c'est de ne pas oublier jamais que, en fait, même ce que l'on comprend avec notre intellect, on doit l'accomplir non pas parce que c'est des choses que l'on comprend, que notre intellect cautionne, mais avant tout parce que c'est la volonté de Dieu, parce que les commandements divins représentent l'expression même de sa volonté. Donc on doit accomplir les commandements divins, non pas parce qu'on les comprend, mais parce que ça représente la volonté de Dieu. Et de la même façon, le rabbi souligne que les peuples du monde, quand ils accomplissent les mitzvot béné noirs, les sept mitzvot béné noirs, ils doivent l'accomplir aussi parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Et en ce sens-là, s'ils accomplissent les commandements divins en ce sens-là, alors ils méritent d'être appelés chassidei umot haolam. De manière profonde, de manière plus profonde, on comprend que finalement cette volonté de Dieu que l'on comprend au moyen de l'intellect, pourquoi on les comprend? C'est parce que Dieu a voulu que sa volonté s'habille dans notre intellect. Donc le point qui est important ici, un point qui est plus profond, c'est de comprendre que la volonté de Dieu, elle dépasse le monde, elle dépasse notre compréhension. La Torah, elle est au-dessus du monde, elle a précédé le monde. Et malgré tout, on voit que Dieu, il va unir sa pensée qui est au-delà de tous les mondes, et il va l'unir aux forces de notre intellect. Donc ça nous renvoie directement à un sujet qui est toujours traité dans le Dvar Malchut, dans les Sichot du Rabbi, dans les enseignements de la Chassidout. C'est l'union entre ce qui dépasse le monde, ce qui est infini, ce qui est illimité, la parole divine, et l'intellect de l'homme, les forces de l'homme, les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, l'union qui a réalisé entre les deux. Ce sujet-là, on en a parlé pour le Kaf Bet Shvat, le jour de la Iloula de la Rabbanit, puisqu'on a dit que même son prénom, c'est une allusion à cela, puisque Chaya, ça représente la Chayut, la vitalité, donc la vitalité qui est dispensée par la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, ça c'est le mot Chaya, et le nom Mushka, ça désigne une odeur qui est parfumée, donc c'est quelque chose qui est makif, c'est quelque chose qui nous enveloppe, ça fait allusion aux forces de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Donc Chaya Mushka, ce prénom-là, il symbolise, il est une allusion entre l'union des forces qui sont makif, les forces de l'âme, de la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, les forces les plus élevées de l'âme, comme la volonté, le plaisir, comme cette volonté, la volonté de toutes les volontés, d'agir et pour accomplir la volonté divine, au-delà de notre intellect, donc ça c'est le nom Mushka, et le nom Chaya, il représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et donc Chaya Mushka, ça représente, comme on l'a dit dans le Devar Malchut précédent, ça représente justement l'union entre les deux. Quand un juif, il parvient à unir ce qui le dépasse totalement avec ce qu'il maîtrise. Et c'est ça l'allusion qui est donnée, et l'enseignement du Rabbi de la semaine dernière, on en a parlé, on a expliqué que c'est précisément le rôle des femmes juives, le rôle des femmes d'Israël et des filles d'Israël, d'unir ces deux niveaux. Et c'est à tel point même que, comme on le verra dans le Dvar Malchut de la Parasha Ve'ata Tetzaveh, quand on parle du fait que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui unit les enfants d'Israël avec Or Ein Sof, on voit le lien évident qu'il y a avec la Rabbanite, qui elle-même unit ces niveaux supérieurs, le niveau de la Emouna, avec la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. En fait, c'est un point qui est réellement important, puisque quand le Rabbi parle du rôle des femmes d'Israël, et qu'il explique, en citant une Mishnah, qu'il explique que la beauté véritable d'une maison et de tout ce qu'elle contient, de tous les ustensiles qu'elle contient, ça dépend essentiellement de la femme. Et le Rabbi nous donne à comprendre que cette beauté véritable, elle est liée avec le Emet, avec la vérité, puisque tous les sujets matériels découlent des sujets spirituels. Donc la beauté, quand le Rabbi parle de la beauté, on doit comprendre qu'il s'agit d'un niveau spirituel très élevé. Quand on parle de la beauté qu'une femme va donner à une demeure, à sa propre demeure, dans laquelle vivent tous les membres de sa famille, on doit comprendre qu'il s'agit aussi de notre mission de faire de ce monde matériel une demeure aussi pour l'essence divine. Donc c'est ça le rôle de la rabbanite et de toutes les femmes qui vont suivre son exemple et adopter son attitude, c'est de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. Donc ça signifie réellement la capacité, ça nous donne vraiment cette idée-là qui est essentielle, et le Rabbi, il insiste vraiment dans ce Devar Malchut pour nous dire que le rôle d'une femme, c'est d'apporter la beauté à ce monde. De quelle manière? Justement, en unissant des niveaux qui sont supérieurs, en unissant les forces de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, avec l'intellect. Donc c'est aussi le sujet de la Parasha Mishpatim, puisque au sujet de ce mot-là, de Mishpatim, comme on l'a dit, ça représente les commandements qu'on comprend avec l'intellect, Rashi, il va donner comme explication que Moshe, c'est celui qui devait placer devant nous, devant le peuple d'Israël, ses lois, les lois divines, de manière à ce qu'elles soient prêtes à être consommées, c'est-à-dire comme des aliments. Donc on pourrait appliquer cette déclaration de Rashi avec le sujet même de la chassidoute. Le rabbi lui-même, et avec l'aide de son épouse, sont ceux qui nous permettent de mettre à notre portée l'essence divine. En fait, l'essence divine, elle est cachée dans ce monde, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas vraiment la connaître. Malgré tout, quand on accomplit les commandements divins, on la dévoile, mais l'étude de la chassidoute et son application concrète dans des actes concrets, ça nous permet vraiment de mettre à notre portée, c'est-à-dire de faire descendre dans ce monde l'essence divine, de révéler l'essence divine dans ce monde et évidemment dans notre âme. L'étude de la chassidoute, elle nous permet de dévoiler l'essence de notre âme. Le rabbi, c'est celui qui va dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif. Et par le fait de dévoiler les sens de notre âme, on peut aussi nous lier avec les sens de la Torah. Donc ce qui est dit à propos de la paracha Mishpatim, quand on parle de... quand Rashi dit que les sujets divins, les lois divines sont comme des plats qui sont prêts à être consommés, on doit comprendre que la profondeur de la Torah du Rabbi, le Rabbi lui-même nous la sert comme des plats qui sont prêts à être consommés. C'est-à-dire que comme un aliment que l'on mange et qui devient notre sang, qui devient notre vitalité, les enseignements du Rabbi sont aussi des aliments, c'est-à-dire sont aussi des concepts divins que l'on doit intégrer en nous-mêmes et qui doivent faire partie de nous-mêmes. Donc on revient à ce prénom-là, au prénom de Chaya. Chaya Mushka. Chaya, c'est la vitalité, comme la vitalité que va dispenser un aliment. Les enseignements du Rabbi vont nous apporter une vitalité nouvelle. D'ailleurs, dans le Inyana Shel Torat HaChassidut, le Rabbi, pour définir la Chassidut, il emploie ces termes-là, une vitalité nouvelle. Après les pogroms, après l'époque terrible que connurent les Juifs au temps du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, c'est celui qui a réveillé le peuple juif de son évanouissement. De la même façon, on voit que la Chassidut, elle va réveiller l'âme d'un Juif, elle va lui apporter une vitalité nouvelle. C'est-à-dire que les enseignements du Rabbi ne doivent pas rester, si on peut dire, suspendus, c'est-à-dire ils ne doivent pas être maquifs, ça ne doit pas nous entourer, nous envelopper de l'extérieur, mais ça doit devenir quelque chose de profond, quelque chose que l'on intègre. Dans un discours chassidique qu'on va étudier, Bezrat Hashem, un peu plus tard avec la paracha Tetzaveh, le Rabbi il donne une explication, il explique pourquoi les enfants d'Israël croient en Dieu. Alors il va donner deux raisons. La première de ces deux raisons, c'est que le niveau de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, seulement le niveau inférieur, si on peut dire, de l'essence de l'âme, c'est le niveau de Chaya, on l'appelle aussi le niveau de Mazal. C'est l'âme qui est en haut. L'âme qui est en haut, c'est l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, mais qui voit le divin. Et le fait de voir le divin, elle va influencer l'âme qui s'habille dans le corps, et c'est pour cela qu'on va avoir de la Emouna. Seulement, le Rabbi souligne ici que la vision, c'est quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. Donc, il y a la personne qui voit, et il y a la chose que cette personne va voir. Donc, ce sont deux choses qui sont différentes, sont deux choses qui s'opposent d'une certaine manière. Et c'est pour cela que, malgré tout, cette vision du divin, quand l'âme d'en haut voit le divin et qu'elle influence l'âme qui est en bas, cette vision-là, elle va nous donner une émouna qui n'est pas réellement profonde, parce que ce que l'on voit, ça demeure extérieur à nous-mêmes. Et ce qui n'est pas le cas quand on parle du plus haut niveau de l'âme, l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Et l'essence de l'âme, telle que le Rabbi l'a définie, il explique que l'essence de l'âme, c'est l'essence des forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. C'est-à-dire que quand on dévoile l'essence de l'âme, ce n'est plus quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. C'est ce lien de l'âme avec Dieu que l'on va faire vivre en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc la Emouna, à ce moment-là, elle devient véritablement profonde, puisque ce n'est plus une vision, ce n'est plus quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'essence divine qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui va se révéler à ce moment-là. Quand on parvient à dévoiler ce niveau de l'essence de l'âme, alors on parle de l'union entre l'essence divine et les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. C'est exactement le sujet que le Rabbi traite dans le Dvar Malchut précédent, quand il nous dit que, justement, Chaya Mushka, c'est celle qui va unir ces niveaux qui sont extérieurs à nous-mêmes et qui va faire en sorte qu'ils vont devenir des sujets qui sont profonds, qui vont faire partie de nous-mêmes, qui vont faire un avec nous-mêmes. C'est le sujet donc de cette paracha Mishpatim, Ve'elea Mishpatim, et ces lois aussi, ces Mishpatim, ces lois qui viennent, que l'on peut comprendre avec l'intellect, ces lois aussi, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit les accomplir parce que Dieu a ordonné ses commandements et non pas parce que c'est des choses que l'on comprend avec notre intellect. La définition que l'on donne de la chassidoute, quand on parle de l'Admor HaZaken, on explique que l'Admor HaZaken, il a mis à notre portée des sujets divins, il les a fait descendre dans notre intellect, il a fait en sorte que justement ces concepts divins abstraits, ça devient des aliments pour notre âme, des choses que l'on peut véritablement intégrer de manière profonde. C'est tout le sujet de la chassidoute. C'est pour ça que même on insiste toujours sur l'importance des nigounim, puisque le nigoun lui-même aussi, il nous permet d'appréhender et de nous prépare à recevoir le Mahamar du Rabbi. Ce Mahamar du Rabbi qui dépasse les mondes, qui dépasse vraiment, comme la Torah, elle est au-delà du monde, la Torah du Rabbi, ça, c'est l'expression de l'essence même de la Torah, donc quelque chose qui est divin, quelque chose qui est abstrait, et par l'intermédiaire du Rabbi, le peuple juif, il va pouvoir recevoir ces enseignements, ils vont devenir une vitalité pour leur âme et pour leur corps, et par le fait de cristalliser ces enseignements par des actes, ils vont parvenir à faire de ce monde matériel une demeure pour l'essence divine, à commencer par eux-mêmes. Car tout le sujet, c'est de parvenir et nous préparer à la venue du Machar, c'est nous préparer à recevoir le dévoilement de l'essence de l'âme et de l'essence divine. De devenir nous-mêmes une demeure pour l'essence de Dieu. Un point, un des points du Devant la Route qui est important que le Rabbi nous donne ici, c'est qu'il nous dit que les peuples du monde, les dirigeants de ces peuples, quand ils sont réunis à l'ONU pour prendre ces décisions pour le désarmement, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? Pourquoi? C'est des choses que l'on peut comprendre avec l'intellect, le fait de désarmer, le fait de vraiment de consacrer des budgets pour des choses humanitaires. Pourquoi cette décision, ils ne l'ont pas prise avant? Et le rabbi nous dit, c'est parce qu'on se le rapproche de la venue du Machiar. Et que le fait de se rapprocher de la délivrance, ça change, ça inspire les peuples du monde à agir dans le sens du projet divin. Évidemment, le rabbi dit aussi que le choix de cet endroit, pourquoi les peuples du monde ont bâti l'ONU justement dans la ville de New York, et le rabbi répond parce que c'est la ville où se trouve le rabbi Rayatz. Donc on voit que le rabbi lui-même, il a une influence sur les peuples du monde, pas seulement sur ses chassidim, pas seulement sur les juifs qui vont lui rendre visite, mais également sur tous les peuples du monde. Donc on voit l'importance, l'action d'un juif dans ce monde. L'Admorem Saïd, dans l'Amré Bina, il explique que quand le simple fait qu'un juif il marche dans un endroit, et le simple fait de marcher sur la terre, il va purifier la terre, il va purifier le monde. Pour quelle raison? Parce que l'essence de l'âme d'un juif, elle réside non pas dans son corps, mais dans les quatre coudées qui l'entourent. Et le fait de marcher simplement, il déplace ces quatre coudées, et d'une certaine manière, si on peut dire, il déplace l'essence divine, donc il purifie la terre sur laquelle il marche, sur laquelle il se trouve. À plus forte raison quand il s'agit du prince d'Israël, du Moshe de la génération, du rabbi lui-même. Donc le simple fait de se trouver à un endroit, le simple fait d'exister, ça a une influence sur le monde tout entier. Avec l'aide de Dieu, que chaque juif parvienne à se trouver aussi, lui aussi, dans les quatre coudées du rabbi, pour dévoiler l'essence de l'âme, à la veille de cette paracha Mishpatim, comme le rabbi le dit lui-même, l'écrit dans le Devar Malchut, que c'est un moment propice pour la venue du Machiar, avec l'aide d'Hachem, Shabbat Shalom ou Mevorach.